me. Love it when you whine for me, whine for me. Feel me when you whine for me. Worth it. Feel just like I'm virgin. Feel me when you whine for me, whine for me.
À votre émission La Voix des Immigrants sur CKUT 90.3 FM. Je suis Moukala, votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, en fait, aujourd'hui, donc, on va traiter d'articles parus sur le site de l'UTAM, l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés et malades, un article sur le travail de nuit et un second article qui traite des bâtiments, donc quand les bâtiments peuvent rendre les travailleuses et les travailleurs malades. Donc, on va aborder ces sujets pour faire le lien avec notre sujet de l'émission précédente sur le PL 59, donc le projet de loi visant à la réforme du régime de santé et sécurité du travail québécois. Mais juste avant, donc, on va se quitter là, pour une brève petite pause musicale et parler là, par la suite, en fait, là, traiter de notre manchette du jour qui va bien évidemment parler de COVID pour faire différent. Donc, voilà, on se quitte et on se retrouve dans 30 secondes. Revoilà au micro, donc pour les manchettes, je l'ai dit, donc, on allait être parlé de COVID-19. Lors de l'émission précédente, là, j'ai parlé donc, des mesures que doivent prendre les Canadiens, les Québécois lors d'un séjour à l'étranger, à l'international. Et puis aujourd'hui, ben, je veux parler avec vous, aborder le sujet là, du retour de l'étranger, puis du séjour obligatoire à l'hôtel, au montant de 2 000 $. Donc, l'information a été prise sur le site du fédéral, du gouvernement fédéral. Donc, j'ai pas... Bon, c'est à peu près le www.gouv.canada, mais j'ai pas l'adresse exacte. Mais bon, vous n'avez qu'à taper une liste de vérification pour entrer au Canada par avion, puis vous allez retrouver l'information. Donc, on dit que pendant la pandémie de COVID-19, nous recommandons fortement aux Canadiens d'annuler ou de reporter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Ce n'est pas le moment de partir en voyage. Les personnes qui voyagent par avion, quelle que soit leur citoyenneté, font face à de nouvelles mesures de santé publique et à de nouvelles dépenses à leur retour au Canada. Le gouvernement du Canada a adopté ces mesures pour prévenir l'entrée à transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus. Avant le voyage, ce que l'on dit, c'est que durant la pandémie de COVID-19, les voyages intérieurs et à l'étranger sont limités. Il est essentiel de comprendre et de respecter les exigences. Il y a toutefois donc différentes étapes à suivre là, avant de partir en voyage. Donc, première étape, vérification des restrictions provinciales ou territoriales, évaluation de votre plan de quarantaine avant la réservation de votre voyage, test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'arrivée au Canada. Bon, je dis ça, mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut également donc réserver le séjour, le fameux séjour à l'hôtel le 3 nuits. Et puis, également, donc, on parle de prise de rendez-vous à l'avance pour le test de dépistage arrivé à l'aéroport, je pense bien. Et puis, également, donc, prévoir un rendez-vous, là, je pense, pour l'utilisation d'Arrivcan, qui est l'espèce de plateforme, en fait, là. Qui, en fait, sur laquelle vous enregistrez, puis bon, le gouvernement, en fait, utilise cette plateforme pour surveiller, entre guillemets, les voyageurs une fois de retour à la maison. Donc, on a un séjour à l'hôtel, une période de quarantaine obligatoire, une période de quarantaine de 14 jours. Donc, le moment de votre départ de l'hôtel et l'endroit où vous passerez le reste de votre période de quarantaine dépend des résultats du test effectué à votre arrivée. Mais bon, pourquoi pas à la maison? Bref. Au 10 jours de votre quarantaine, vous devrez vous soumettre à un autre test de dépistage de la COVID-19 en suivant les instructions qui vous ont été fournies ou qui vous seront fournies. Il faut comprendre qu'il y a certains voyageurs qui sont exemptés du séjour à l'hôtel de 3 jours. Donc, les mineurs non accompagnés ou enfants à charge non accompagnés et les personnes déjà exemptées de l'obligation de subir un test de dépistage après l'arrivée. Une fois à l'hôtel, non, c'est pas vrai, pas une fois à l'hôtel, donc vous sortez de l'hôtel, hein, donc là, vous êtes en quarantaine obligatoire pendant 12 jours ou 10 jours. Voilà. Donc, vous restez à la maison, on attend, vous attendez qu'on vous appelle. Hein. Il y a apparemment là, certains, comment dire, là, les inspecteurs, ouais, font des visites surprises à domicile. Mais bon, c'est ça. Donc, vous restez à la maison et puis, voilà. Et donc, vous attendez donc les résultats le second test à passer là, une fois à l'hôtel, une fois le départ de l'hôtel. Donc voilà, sachez que c'est ça. Donc on a 3 jours obligatoires à l'hôtel de retour lorsqu'on est de retour de l'étranger. Le séjour coûte 2 000 $. Et puis, ce que je voulais dire également, là, c'est que le plus important, c'est qu'il faut prévoir. Donc il faut prévoir son voyage, entre autres, prévoir donc, la réservation des 3 jours à l'hôtel. Et puis également, donc, faites une prise de rendez-vous à l'avance pour le test de dépistage à l'arrivée. Et puis voilà. Donc, voilà pour notre sujet, pour notre manchette. On se quitte pour une brève petite... En fait, pour une brève, c'est pas vrai. On se quitte pour une pause musicale de 3 minutes. On va écouter ensemble la pièce d'un artiste... En fait, de 2 artistes congolais, oui. Donc, Mahous. Je crois que j'ai présenté une de ces pièces là, une émission précédente. Je disais que je n'étais pas sûre là, de comment on prononce son nom, mais bon, Mahous ou Majous, bref, M-A-J-O-O-S. Et puis la pièce, c'est bon, je vais aller vous trouver le titre de la pièce. J'ai plus le titre de la pièce, mais c'est Mahous et Mbiliambel, donc 2 artistes qu'on connaît. Et puis donc, on se retrouve par la suite avec notre premier article donc sur le travail de nuit. Donc, je disais qu'on allait parler, là, on allait parler d'article paru sur le site de l'UTAM. Donc, on se retrouve par la suite après la pause musicale, donc avec notre article sur le travail de nuit. À tout à l'heure.
Mbiliambel, la reine des Barranquilla, et le prince Majous.
Cosa yangu kisi nilikupa. sentir abandonné par la personne qu'on aime. Se sentir abandonné. Et voir tout s'écrouler sans qu'on puisse rien changer. Et voir tout s'écrouler. Si notre nana n'a pas eu d'aquaco. Mais n'a pas qui pas qu'on a ma oiseau. N'a pas eu de nifoulia. On y roumille écho. On y roumille écho. Ma peine on y les coupa. Est-ce que n'y les cosa. Tournez la page, permets-moi d'aller de l'avant, aller de l'avant. On y roumille écho, on y roumille écho. Ma peine on y les coupa, est-ce qu'on y les cosa.
Rodrigue Chijik, le Mointe.
Le Juif, Docteur Jeff Njadi, le Teta, don de Dieu.
Me revoilà au micro, donc c'était la pièce musicale Déception de Mbiyambel et de Maros, ou Majos. Donc, concernant notre premier article sur le travail de nuit, je vous l'ai mentionné, donc il a été pris sur le site de l'UTAM, Union des travailleuses et travailleurs accidentés et malades. Et puis, dans quelques instants, on va parler, mais dans quelques instants, dans quelques minutes, on va parler du second article, mais bref, pour le travail de nuit. Donc, ce qu'on dit essentiellement au début, c'est que le travail de nuit est de plus en plus présent. Donc, on parle de sidérurgie nucléaire, donc de rentabilité économique, mais de sidérurgie nucléaire, donc de processus de production, de rentabilité économique, qui fait en sorte que le travail de nuit est de plus en plus présent, et également donc la santé, l'incendie, les services d'incendie, policiers également, là, où on a recours au travail de nuit. Et puis, on se pose la question, donc, est-ce que ce travail de nuit a des effets sur la santé? Au début, donc, on parle, au préalable, on parle donc de rythme biologique, et puis également là, du sommeil. Et pour, et finalement, là, donc, on traite là, des effets du travail de nuit sur la santé. Donc, concernant les rythmes biologiques, ce que l'on dit, c'est que notre horloge biologique régule le fonctionnement de notre organisme là, selon différents rythmes, plus ou moins longs. Là, premièrement, donc, le rythme de plus de 24 heures, donc les rythmes de plus de 24 heures appelés infrasiens, tel le cycle menstruel. On a par la suite des rythmes de moins de 24 heures qui sont nommés ultradiens. Donc, on parle de digestion, de pulsation cardiaque. Et finalement, on a donc les rythmes d'environ 24 heures qui sont des rythmes circadiens. Donc, et on va parler de sécrétion de diverses hormones, de température corporelle, de vigilance, de performance physique et mentale. Ces rythmes biologiques sont à leur tour influencés par différents facteurs qui permettent de remettre le pendule ou la pendule à l'heure à chaque jour. Ce sont donc l'alternance lumière et obscurité, la température extérieure, le bruit, les rythmes sociaux qui vont avoir une influence donc, sur ces différents rythmes. Ces facteurs ne créent pas les rythmes biologiques, mais les influences, on l'a compris. C'est d'ailleurs ce qui explique que nous puissions nous adapter lorsque nous subissons un décalage horaire. En effet, nos propres rythmes biologiques s'adaptent peu à peu à la nouvelle alternance, pardon, jour-nuit, aux nouveaux horaires de repas, etc. Cela n'est pas le cas pour le travail de nuit, puisque la vie continue autour des mêmes rythmes. Nous demeurons au même endroit, avec la même alternance jour-nuit, les mêmes bruits de jour et de nuit, etc. Premièrement, donc, concernant les rythmes biologiques. Au niveau du sommeil, maintenant, l'humain étant un animal diurne, il est en période d'activation maximale durant la journée et de désactivation durant la nuit. Il est donc naturel pour l'humain de travailler le jour et de dormir la nuit. Durant la période de sommeil qui varie de 5 à 10 heures, il y a une sécrétion de 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes et chacun de ces cycles comprend 7 phases, dont une de sommeil profond qui répare la fatigue physique et une de sommeil paradoxal qui répare la fatigue mentale. Le sommeil paradoxal répare la fatigue mentale. Notre corps profite également donc de la période de sommeil pour produire différentes hormones dont la sécrétion est liée à l'obscurité, telle la mélatonine qui a un effet immunitaire et le cortisol qui a un effet anti-inflammatoire. Maintenant, concernant donc l'effet du travail de nuit sur la santé, donc on dit que de façon générale, les recherches sur le travail de nuit indiquent qu'il est à l'origine d'une surfatigue qui amène une usure prématurée, que l'état de santé des travailleuses et travailleurs de nuit décroît plus rapidement que celui des travailleuses et travailleurs diurnes qui travaillent le jour et donc les travailleurs de nuit vieillissent plus rapidement. Plus spécifiquement, on s'entend pour dire que les troubles du sommeil sont les principaux effets négatifs du travail de nuit. En effet, donc, le sommeil serait plus court et plus morcelé à cause de la désynchronisation des rythmes circadiens et de diverses perturbations extérieures comme le bruit et la lumière. En plus d'être caractérisé par une plus courte période de sommeil paradoxal nécessaire à la période, à la réparation de la fatigue mentale. Cette perturbation du sommeil entraîne également de la fatigue chronique et une plus grande consommation de médicaments pour aider à dormir, pouvant avoir des effets secondaires sur la santé. Parmi les autres effets du travail de nuit, on note des troubles digestifs et gastro-intestinaux allant des troubles de l'appétit à l'ulcère en passant par l'obésité. Les travailleurs de nuit consommeraient entre autres du thé et du café de façon excessive, des aliments industriels plus riches en glucides et souvent un repas supplémentaire. De plus, le stress lié au manque de sommeil paradoxal ainsi que la mauvaise alimentation entraînerait des troubles cardiovasculaires tels l'hypertension et l'angine de poitrine. Toujours lié à ce manque de sommeil paradoxal, on note également chez les travailleuses et les travailleurs de nuit donc des troubles nerveux tels des maux de tête, l'agressivité, l'anxiété et l'asthénie. Par ailleurs, concernant les hormones dont la sécrétion est liée à l'obscurité, ils ne sont plus produits, bien évidemment. Et puis selon donc, le Centre international de recherche sur le cancer, il y a eu émission de l'hypothèse que la non-sécrétion de mélatonine entraînerait la suppression de la sécrétion d'estrogène, ce qui favoriserait le développement de cancers hormonaux dépendants du sein. Finalement, parce que ces travailleurs de nuit ont un sommeil moins réparateur, ils ont une moins bonne vigilance qui peut avoir un impact au niveau des accidents du travail et sur la route. Pour pallier aux effets négatifs, on comprend en fait le scolaire dit qu'il y a certains états où il y a des juridictions qui parlent du travail de nuit. Entre autres, je crois bien, là, c'est en France, c'est pas en France, c'est au Danemark, où on limite le travail de nuit à un certain nombre d'heures. Et puis, il y a des suivis médicaux qui sont faits auprès de ces travailleurs. Et puis, si on constate qu'il y a des troubles de santé, le travailleur est transféré de jour. Ce que l'UTAM dit, c'est que le Québec devrait faire la même chose. Adopter des mesures, des règlements, une juridiction en matière de travail de nuit. Un article qui a été publié il y a quelques années. Par contre, donc on peut essayer de vérifier s'il y a eu évolution en la matière. Je crois qu'il a été publié en 2017-2018, mais tout de même, ce qu'on comprend, c'est que le travail de nuit a des effets sur la santé, et puis c'est ça, faut tenter d'y remédier. On se laisse maintenant pour une belle petite pause musicale. Donc, on va écouter la pièce « Parle à ta tête » de Inzina. une pièce de 5 minutes, et puis on se retrouve par la suite, en fait, pas tout de suite, mais on va écouter par la suite un reportage sur le travail de nuit également, d'une médecin française. Voilà, donc il va parler justement du travail de nuit, puis bon, des différentes formes d'intervention possibles pour remédier, là, limiter les effets du travail de nuit. Donc on se laisse pour à peu près, là, je dirais, une quinzaine de minutes, et on se retrouve au micro avec notre deuxième article sur quand les bâtiments peuvent rendre les travailleuses et les travailleurs malades. À bientôt.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je fais des marmites. J'en ai marre et très vite, je fais des marmites de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, non, ne me mens pas. Oui, j'ai dit ne mens pas. C'est bien trop pour moi. Ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrume et m'enivre d'absente d'amour, et j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie comme les.
Bonjour à tous. Donc, je vous propose de plonger dans la biologie des rythmes. Voilà. Très bien. Notre planète Terre nous soumet périodiquement à des alternances de lumière et d'obscurité. Et pour faire face à ces changements périodiques, les êtres vivants ont mis en place des stratégies d'adaptation, parmi lesquelles les rythmes biologiques. Un rythme biologique est une variation prévisible d'un phénomène au cours d'un temps donné. La journée, le mois, la saison. Et l'existence même de ces rythmes biologiques reflète la nécessité pour certains événements de se produire plutôt à un moment qu'un autre d'une période de temps donnée. L'homme est donc fondamentalement rythmique. Et il se trouve que nos rythmes biologiques nous prédisposent à être actifs de jour et à dormir la nuit. L'homme est donc rythmique et l'homme est diurne. Et nous allons voir pourquoi ça va poser problème dans le cadre du travail de nuit. Les rythmes sont définis selon leur période. Les rythmes qui vont particulièrement nous intéresser dans le cadre du travail de nuit sont les rythmes dits circadiens. Un rythme circadien, ça vient d'un terme latin qui signifie environ un jour. Donc un rythme circadien est un rythme dont la période est d'environ 24 heures, mais également c'est un rythme qui est d'origine endogène. Et ça, c'est extrêmement important, nous allons y revenir. Tous les êtres vivants expriment des rythmes circadiens, que ce soit les plantes, les insectes, les poissons et bien sûr les mammifères. Voici à titre d'exemple quelques rythmes circadiens bien connus. Le sommeil, bien sûr, avec les différentes phases du sommeil, le sommeil lent en début de nuit, le sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit, notre température interne, nos mouvements musculaires, notre coordination motrice, notre tension artérielle, etc., etc. Le rythme de certaines hormones, comme la mélatonine, par exemple, qui est sécrétée exclusivement la nuit. Voici donc un panel, un exemple de l'ensemble des rythmes circadiens que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, comment ce système circadien, puisqu'on parle de système circadien, est organisé? Eh bien, il est organisé autour d'horloges. Nous avons une horloge principale qui est localisée dans le cerveau, dans une petite structure au niveau de notre cerveau, qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et nous avons des horloges périphériques, ou dites secondaires, qui sont localisées dans l'ensemble de notre organisme. Et l'ensemble de ce système est coordonné avec l'horloge principale qui coordonne les horloges secondaires. On prend souvent l'image qui reflète assez bien la réalité d'un orchestre. Le corps, finalement, est comme un orchestre circadien avec une horloge principale, schématisée ici par le chef d'orchestre, et des horloges périphériques qui sont schématisées ici par les musiciens. Et vous comprenez bien que s'il manque le chef d'orchestre, il va y avoir des difficultés. Et s'il manque certains musiciens, il va y avoir des difficultés de coordination également. Alors, comment est organisé ce système? Il est organisé autour de trois grandes parties. La première partie, l'entrée du système, ce sont les variations périodiques de notre environnement. Puis, nous avons l'horloge principale qui est schématisée. L'horloge principale et les horloges secondaires. Et enfin, à la sortie du système, un ensemble de rythmes biologiques qui vont établir et qui vont être absolument fondamentaux pour optimiser notre physiologie. Les variations périodiques de l'environnement, vous le voyez schématisé ici, la variation la plus impactante pour le système circadien, c'est l'alternance de la lumière et de l'obscurité. On sait même depuis quelques années qu'il existe un système spécifique avec des photorécepteurs spécifiques, qui ne sont pas les cônes et les bâtonnets que l'on connaît depuis longtemps, mais un système de photorécepteurs spécifiques qui est entièrement dédié à la synchronisation de l'horloge biologique par les variations périodiques de l'environnement et par l'alternance lumière-obscurité. À côté de ces synchroniseurs dits photiques, donc liés à la lumière, nous avons également un ensemble de synchroniseurs non photiques, comme par exemple les influences métaboliques, l'heure du repas, la composition de notre repas, ou encore des influences liées à l'activité physique qui vont également apporter des informations à nos horloges biologiques. Et enfin, tout ça, ça va concourir à synchroniser cette horloge biologique principale sur exactement 24 heures et ça va aboutir à l'établissement d'un ensemble de rythmes biologiques dont je vous ai déjà donné des exemples. Ici, j'ai reproduit le rythme de mélatonine, de température interne ou encore le rythme de cortisol, l'hormone du stress qui a également un rythme biologique très très puissant et très bien établi. Alors, quel va être finalement l'impact du travail de nuit, l'impact d'une perturbation de ce système? Parce qu'il s'agit bien de ça, le travail de nuit va perturber entièrement l'organisation du système circadien. Alors voilà ce qui se passe en cas de travail de nuit. L'organisme va être soumis à des conflits. Un premier conflit entre les informations qui parviennent à l'horloge centrale et qui parviennent de notre environnement, donc ici la lumière, le repas, le moment du repas, et un deuxième conflit entre les informations que va transmettre l'horloge principale aux horloges périphériques. Et l'ensemble de ces conflits va aboutir à ce que l'on appelle des états de désynchronisation. Ça veut dire que nos rythmes biologiques ne seront plus en phase les uns avec les autres. Et ce sont ces états de désynchronisation, entre autres mécanismes, mais qui sont principalement actuellement suspectés comme étant à l'origine des perturbations et des symptômes et des pathologies en lien avec le travail de nuit. Alors, quels sont les effets connus aujourd'hui du travail de nuit? Pour répondre à cette question, on peut réaliser différentes études, soit des études de laboratoire, soit des études de terrain, en observant ce qui se passe dans la réalité. Je vous ai mis ici Michel Siffre, qui a été un des premiers, un sismologue, qui a été un des premiers à soumettre son organisme à un ensemble de mesures afin d'étudier l'impact de l'environnement sur sa biologie rythmique. Il descendait périodiquement dans des grottes pour s'isoler, etc. Depuis, on sait reproduire ça en laboratoire, bien sûr. On peut étudier des modèles cliniques. Je vous ai mis ici un petit schéma pour évoquer les non-voyants, qui sont un modèle clinique de choix pour étudier l'influence de la lumière, par exemple, sur l'horloge biologique. Ou encore, on peut faire des études épidémiologiques en entreprise, en étudiant des travailleurs de nuit sur le terrain. L'ensemble de ces études ont été synthétisées dans un rapport scientifique récent qui a été publié par l'ANSES en 2016 et qui a fait le point sur l'ensemble des risques sanitaires auxquels étaient exposés les travailleurs de nuit. Alors, les effets sanitaires étudiés étaient les effets sur le sommeil, la somnolence et les performances, les effets sur la sphère cognitive, la santé psychique, les troubles métaboliques, les pathologies cardiovasculaires et bien sûr les cancers. L'ANSES a donc classé les effets liés au travail de nuit en trois grandes catégories. Les effets avérés, ça veut dire qu'on avait suffisamment de littérature et des preuves épidémiologiques et mécanistiques puissantes pour conclure à un effet avéré du travail de nuit sur la qualité et la quantité de sommeil, une qualité réduite et une quantité de sommeil réduite également sur les 24 heures. Un effet avéré sur la somnolence et un effet avéré sur le risque de syndrome métabolique. Des effets probables, sur les performances cognitives, sur la santé psychique, le risque d'obésité et de surpoids, sur le risque de diabète, le risque de maladies coronariennes et sur le risque de cancer, notamment les cancers du sein chez la femme. Et enfin, des effets possibles, où là, on avait beaucoup moins d'évidence scientifique, mais quand même des suspicions, notamment grâce à certaines études expérimentales chez l'homme et chez l'animal, avec des effets possibles sur les anomalies des lipides sanguins et sur les risques d'hypertension artérielle et d'accidents vasculaires cérébraux. Parallèlement aux effets sanitaires, le rapport de l'ANSES a également identifié des effets sur la sinistralité, avec une fréquence et une gravité des accidents du travail survenant la nuit qui étaient généralement augmentées, et avec des effets, bien évidemment, sur la vie sociale et familiale, avec une limitation de la vie sociale, des déséquilibres dans le fonctionnement familial et souvent une diminution de la qualité des relations parents-enfants. Actuellement, bien sûr, il y a des recherches en cours sur cette thématique. Notamment, a été publié cet été, au mois d'août, un rapport américain qui a refait le point sur les effets cancérigènes probables du travail de nuit et qui réaffirme cet effet probable avec identification et de mécanismes physiopathologiques de mieux en mieux identifiés, notamment via une exposition différente à la lumière et donc une altération de certains gènes horloges avec des effets sur la sécrétion de mélatonine. Donc ce rapport vraiment identifie et décortique pas mal de mécanismes physiopathologiques probables. Une réactualisation en cours de l'alerte du CIRC qui vous a été évoquée en introduction. Le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé le travail de nuit comme étant probablement cancérigène en 2007, vient de débuter une réactualisation de cette classification. Pareil cet été au mois d'août. Quelle prévention? Alors, comment on va se servir de l'ensemble de ces connaissances scientifiques pour faire de la prévention sur le terrain? La première prévention, ça a été dit à l'instant dans le cadre de l'exposé sur le cadre juridique, c'est de rappeler le code du travail. Le recours au travail de nuit se doit d'être exceptionnel, etc. Je ne vais pas reciter le code du travail. Si on ne peut pas supprimer le travail de nuit, il va falloir privilégier la prévention primaire. La prévention primaire, c'est agir sur le système horaire afin de limiter la désynchronisation circadienne et de limiter la dette de sommeil. C'est de favoriser donc la récupération de cette dette de sommeil et de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. L'ensemble de ces méthodes organisationnelles de prévention primaire vous seront largement exposées au cours de la journée à travers les témoignages concrets d'entreprises. Agir sur le contenu du travail également, à savoir qu'il est peut-être opportun de s'interroger si les tâches les plus pénibles ne peuvent pas être situées plutôt en début de nuit qu'en fin de nuit, etc. etc. En prévention secondaire, on va sensibiliser les salariés exposés au travail de nuit à l'hygiène de sommeil et à la diététique. Et enfin, on peut avoir une action sur les parcours professionnels et la gestion des ressources humaines afin de maîtriser la durée d'exposition des salariés. L'ensemble de ces données que je viens de vous exposer vous sont récapitulées dans une brochure toute récente de l'INRS dont vous avez les références sur cette diapositive et qui reprend également les principaux messages de prévention. Vous trouvez cette brochure sur la table documentaire. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci Madame Weibel.
Me revoilà au micro. On va donc maintenant aborder le second article. Quand les travailleurs, en fait, quand les bâtiments peuvent rendre les travailleuses et les travailleurs malades. Donc, il est bien connu que des conditions de travail néfastes peuvent porter atteinte à la santé des travailleuses et travailleurs. Pensons aux produits chimiques nocifs, aux bruits, aux mouvements répétitifs, aux cadences élevées et aux postures contraignantes pour ne nommer que ceux-là. Mais qu'en est-il maintenant de l'état du bâtiment dans lequel on travaille? Bonne question. Nous savons par exemple que l'amiante, on en a parlé bien souvent à l'époque dans les informations, que l'amiante contenue dans des matériaux de construction pose un immense problème lorsque ces matériaux sont en mauvais état et risquent de dégager des poussières et des fibres d'amiante. Des contrôles très rigoureux sont donc exigés par les règlements en vigueur au Québec pour tout travail avec des matériaux contenant de l'amiante. Oui, l'amiante qui crie, qui provoque l'amiantose. Le problème des moisissures maintenant. Donc, un autre problème en lien avec des bâtiments qui sont un peu peu ou pas entretenus est la croissance des moisissures. Les moisissures sont en réalité des colonies visibles de champignons microscopiques. Par exemple, sur la surface d'une orange pourrie, on voit des moisissures blanchâtres ou verdâtres. Sur la surface intérieure des bâtiments, ces colonies sont souvent noirâtres. Lorsqu'il y a une forte croissance de moisissures à l'intérieur d'un bâtiment, elles peuvent dégager une odeur caractéristique de terre. Un bâtiment qui manque d'entretien peut être sujet à des infiltrations d'eau chroniques ou encore à des dégâts d'eau en raison de la tuyauterie vétuste. Dans de telles situations, les matériaux de construction demeurent humides, ce qui favorise le développement et la prolifération de moisissures. L'air intérieur trop humide peut également favoriser la croissance de moisissures et d'autres agents biologiques nocifs tels les acariens qui sont une cause reconnue d'asthme. Enfin, un système de ventilation mal conçu ou mal entretenu peut aussi être contaminé par des moisissures. Ceci est particulièrement préoccupant car un système ainsi contaminé distribuera les moisissures partout dans le bâtiment, affectant la qualité de l'air de l'ensemble de l'édifice. Les dangers maintenant des moisissures sur la santé. En plus d'être désagréable à voir, les moisissures ont des effets qui peuvent être très nuisibles sur la santé. Les principaux impacts d'une exposition aux moisissures dans l'air sont des symptômes d'irritation et des effets sur le système respiratoire. Irritation des yeux, du nez, de la gorge, écoulement nasal, congestion des sinus, symptômes s'apparentant à ceux du rhume, respiration sifflante, toux, augmentation de la fréquence et de la gravité des crises d'asthme, fatigue chronique et maux de tête. Le docteur Louis-Jacques Hilin-Docteur et le docteur Stéphane Perron mentionnent que l'exposition aux moisissures peut augmenter le risque de contracter des infections bactériennes et virales courantes. Il nous ajoute qu'une telle exposition peut également engendrer d'autres affections graves, mais plus rares, qui peuvent laisser des séquelles comme un syndrome toxique. Comment prévenir, en fait, ces dangers pour la santé liés à l'exposition aux moisissures? Donc, il existe de différentes façons. Donc, l'approche la plus efficace est celle de l'entretien préventif du bâtiment. Une inspection périodique de l'enveloppe et de l'intérieur du bâtiment permettra de déceler toute anomalie devant être réparée pour éviter des infiltrations d'eau. Si jamais un dégât d'eau se produit, une réparation rapide dans un délai de 2 jours et idéalement dans un délai de 24 heures empêchera la croissance des moisissures. Dans ce cas, il faut enlever tout le matériel poreux, donc le matériel qui absorbe l'eau comme le placoplâtre abîmé par l'eau, incluant les structures derrière la surface abîmée, car il est fort possible que celle-ci le soit aussi donc contaminée par des moisissures. Il faut également assécher rapidement les autres structures, comme le bois encore sain. Une fois ces procédures terminées, on peut procéder aux réparations et remplacer les structures enlevées. Enfin, tel que le prévoit l'article 104 du règlement sur la santé et sécurité du travail, tout système de ventilation mécanique doit être inspecté et réglé au moins une fois par année et les filtres entretenus ou remplacés au besoin. En procédant ainsi, on devrait être en mesure d'éviter une contamination du système par des moisissures. Lorsque les moyens de prévention ont fait défaut et qu'une contamination par des moisissures a été identifiée à l'intérieur d'un bâtiment, il existe des protocoles rigoureux qui décrivent la marche à suivre pour éliminer de façon complète les matériaux contaminés, tout en protégeant la santé des travailleuses et travailleurs responsables de la décontamination ainsi que celle des occupants du bâtiment. Il est important donc de mentionner que, il est important de mentionner que dans certains bâtiments, il y a des populations autres que les travailleuses, travailleurs vulnérables. On pense au CHSLD. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en protégeant les travailleuses, travailleurs, on protège également donc ces populations vulnérables. Il y a des lésions reconnues causées par donc les moisissures. Les problèmes de santé causés par une exposition aux moisissures peuvent être reconnus comme maladies professionnelles. Par exemple, dans un dossier traité par le tribunal impliquant plusieurs travailleurs exposés aux moisissures, le médecin employeur, le comité des maladies professionnelles ont affirmé que l'exposition aux moisissures n'était pas assez importante pour occasionner des problèmes, et ce, même s'il n'existe aucune norme d'exposition aux moisissures dans l'air. Le commissaire a rejeté ces arguments, reconnaissant que les problèmes respiratoires dont souffraient les travailleurs étaient associés à l'exposition aux moisissures. Donc, le tribunal reconnaît à certains moments que l'exposition aux moisissures va avoir des impacts là, sur la santé des travailleurs. En conclusion, donc, ce que l'on dit, c'est qu'un bâtiment en mauvais état peut porter atteinte à la santé des travailleuses et travailleurs, ainsi qu'à celle d'autres occupants du bâtiment. La présence d'une croissance de moisissures à l'intérieur du bâtiment est inacceptable en raison des effets sur la santé. Il existe des moyens de prévention simples pour empêcher de telles situations. Lorsqu'une situation survient, lorsqu'un problème survient, il existe également donc, des procédures, des marches à suivre. On en a parlé donc de contacter, par exemple, un service de sinistre là, pour qu'ils agissent rapidement, là, idéalement dans les 24 heures. Donc voilà pour notre second article sur les moisissures, l'exposition aux moisissures, en fait. On va écouter ensemble maintenant un article. En fait, c'est pas vrai, c'est pas un article, un reportage sur l'exposition à des cancérogènes. Pour faire le lien également donc, avec notre sujet du jour, donc, on parlait de travail de nuit, l'exposition aux moisissures, maintenant l'exposition aux cancérogènes. Donc un article de 17 minutes, un reportage pardon, de 17 minutes. Et on se retrouve par la suite avec, pour la fin de l'émission. Donc à dans 17 minutes.
Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Je vais présenter les résultats de ce rapport-là qui a été publié en juin. Le contexte, pourquoi on a fait cette étude-là? Bon, d'abord, on avait fait 3 activités de sensibilisation avant, plus en 2012-2013. On avait justement estimé l'exposition des travailleurs québécois aux cancérogènes. En milieu de travail, on avait estimé la proportion puis le nombre de cancers attribuables aussi à l'exposition en milieu de travail. Et on avait produit une brochure puis un feuillet de sensibilisation destiné au comité de santé et sécurité puis aux travailleurs. Ce qu'on s'est fait dire, c'est « Ah, c'est bien intéressant, mais c'est un petit peu trop général. » Alors, on a eu des demandes spécifiquement, puis je ne veux pas cibler personne, mais la CNSST, le Réseau de la santé publique, puis certaines associations sectorielles aussi, qui nous ont manifesté le besoin d'avoir des données un peu plus détaillées ou spécifiques par secteur et par profession. Donc, le but, les objectifs de notre étude étaient d'abord de décrire les secteurs d'activité économique et les principaux groupes professionnels dans lesquels les travailleurs québécois sont exposés à des cancérogènes, avec comme objectif spécifique de mettre à jour les estimations de proportion de travailleurs exposés, à part celles qu'on avait faites en 2012, et par grand secteur industriel, décrire les sous-secteurs et les professions avec les plus grands nombres et les plus grandes proportions de travailleurs exposés. Parler un peu de la répartition des entreprises selon la taille et les caractéristiques des travailleurs selon l'âge et le sexe. Un petit peu de méthodologie, rapidement. C'est une étude descriptive. On a utilisé 5 sources de données pour essayer de retracer combien de ou la proportion des travailleurs et le nombre de travailleurs qui pouvaient être exposés à des cancérogènes. Donc, 2 enquêtes transversales québécoises, l'enquête québécoise sur la santé des populations. Il y avait 2 questions sur des cancérogènes dans cette enquête-là et l'enquête québécoise sur les conditions de travail, d'emploi, santé, sécurité du travail, mieux connue sous le nom d'éco-test, qui a été réalisée, entre autres, par plusieurs chercheurs d'ici. Le projet CAREX Canada, qui est un projet d'estimation de l'exposition de la population générale et des travailleurs à des cancérogènes, qui a été initié par l'Université de Colombie-Britannique et maintenant a été reprise par Simon Fraser en Colombie-Britannique. L'enquête, il y a des données d'enquête françaises sommaires qui nous ont été... on a fait une demande d'accès aux données pour quelques substances pour lesquelles on n'arrivait pas à avoir des données plus canadienne ou québécoise, et un projet de matrice emploi-exposition en population générale, MatGéné, qui a été développé par l'Institut de veille sanitaire en France encore, pour compléter le nombre de cancérogènes. Alors, comment on a sélectionné les cancérogènes? On a regardé dans le RSST, on a choisi les tout cancérogène qui était cancérogène démontré chez l'humain ou l'animal, ou soupçonné chez l'humain. Et on a regardé aussi la liste de cancérogènes qui est publiée par le Centre international de recherche sur le cancer. Et on a conservé ceux qui sont ce qu'on appelle le groupe 1, groupe 2A, c'est-à-dire les cancérogènes avérés ou certains, et les cancérogènes probables. Ça nous a donné 41 cancérogènes pour lesquels on a réussi à avoir des données dans les différentes sources dont je vous ai parlé auparavant. Alors, les calculs qu'on a effectués, qui sont relativement simples en termes de calcul, mais qui sont énormes parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de professions. On a calculé donc les proportions d'exposition qu'on a réussi à produire par industrie et profession. Et on les a appliquées aux données de main-d'œuvre tirées de l'enquête nationale auprès des ménages. C'était l'équivalent du recensement canadien, avec un ajustement pour les fluctuations mensuelles d'emploi. Alors, on a produit un rapport et un document annexe des fiches par grand secteur d'activité. Les résultats sur les expositions les plus fréquentes, alors ce que vous voyez ici, c'est des types d'expositions de cancérogènes auxquels plus de 50 000 travailleurs québécois seraient exposés. Vous voyez que le travail de nuit est un bon gagnant avec à peu près 500 000 travailleurs exposés. Rayonnement solaire, émissions de moteurs diesel, les huiles minérales, benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, silice cristalline, poussière de bois, plomb. Donc, pour ces contaminants-là, on considère qu'il y a plus de 50 000 travailleurs québécois exposés. Maintenant, il y a des expositions multiples. Là, ce que vous voyez ici, c'est différents secteurs d'activité où il y a plusieurs expositions. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les gens ou tous les travailleurs de chacun de ces secteurs-là sont exposés à, par exemple, plus de 25 substances cancérogènes. Ça, c'est le nombre potentiel de cancérogènes. Alors, vous voyez jusqu'à 25 ici, donc il y en a un petit peu plus ici. Alors, on a une quinzaine de secteurs d'activité, surtout dans la fabrication, secteur de la fabrication, mais aussi dans, par exemple, l'impression, les activités connexes, production de pétrole, etc. Réparation, entretien, il y a quand même beaucoup de potentiellement de cancérogènes auxquels sont exposés les travailleurs. Maintenant, exposition multiple, si on veut essayer de les voir par grand secteur, ce que je vous ai mis ici, on a encore toujours le nombre de cancérogènes potentiels. Ce que vous avez à droite, ce sont différents grands secteurs qu'on avait vus dans la diapo précédente où il y a plusieurs expositions multiples. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est que, puis ça, c'est les différentes professions à l'intérieur des différentes industries. Ce que je veux surtout attirer votre attention sur le fait que les gens qui reviennent souvent avec une exposition multiple, ce sont les manœuvres. Et puis, la deuxième profession qui revenait souvent, ce sont les soudeurs et opérateurs de machines à souder. Puis ça, c'était vraiment frappant dans tous ces secteurs d'activité-là. Donc, ce sont les deux grands titres d'emploi qu'on a considérés comme étant très exposés à de multiples cancérogènes en même temps, de façon concomitante. Les autres données que je vous présente rapidement, pour le sexe, les femmes sont en grand nombre dans les soins de santé et assistance sociale, sont exposés surtout aux rayonnements ionisants, travail de nuit, rayonnement artificiel, rayonnement solaire aussi. Les hommes dans les secteurs agriculture, foresterie, pêche, chasse, extraction minière de pétrole, de gaz aussi, construction, fabrication beaucoup, transport et entreposage, où il y a des expositions importantes et multiples. Rayonnement solaire, poussière de bois. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes cancérogènes que les femmes, mais il y a quand même le travail de nuit. Exposition à la silice, beaucoup plus importante chez les hommes. Émission de moteur diesel aussi, beaucoup plus importante chez les hommes. Plomb. On a regardé aussi les petits emplacements, ou les petits, ce qu'on a appelé emplacements, c'est les endroits de travail, c'est-à-dire que on a une entreprise qui peut avoir, comme par exemple Couche-Tard, plusieurs emplacements de travail différents, ou encore vous avez un CLSC qui va avoir des espèces de points de service à différents endroits. Alors, ce qu'on appelle emplacement, c'est chaque unité de travail. Alors, les petits emplacements de moins de 20 travailleurs, il y en a surtout dans ces secteurs-là, donc agriculture, foresterie, pêche et chasse. En construction, il y a beaucoup de petits employeurs. Dans les entreprises d'immobilier, location. Aussi dans les services professionnels, scientifiques, techniques, beaucoup de petits établissements. Ces gens-là sont exposés au rayonnement solaire, au travail de nuit, mais un petit peu moins, aux émissions de moteurs diesel, beaucoup de livraisons, souvent dans ces entreprises-là, poussière de bois, rayonnement ionisant aussi. Je termine avec l'âge. Les jeunes travailleurs qu'on a considéré jeunes travailleurs 15 à 24 ans, il y a une plus grande proportion dans les services. Mais ça, probablement que ceux qui travaillent un peu sur ce groupe d'âge-là le savent déjà. Donc, surtout commerce, hébergement, restauration. Les expositions les plus fréquentes sont celles aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux émissions de moteurs diesel, il y a de la livraison, benzène, rayonnement solaire aussi. Et les expositions multiples chez ces jeunes travailleurs-là sont surtout en grand nombre dans la construction et dans certaines entreprises de fabrication. Les travailleurs plus âgés maintenant, ils sont en plus grande proportion, eux aussi, dans les services. Par contre, c'est dans d'autres types de services, c'est-à-dire beaucoup la gestion société, services de location, dans le transport. Par exemple, dans le transport, en autobus scolaire, il y a plus de 50 % des gens qui sont des gens de plus de 55 ans qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, les expositions fréquentes sont aux émissions de moteurs diesel, rayonnement solaire aussi, benzène, formaldéhyde, des solvants qu'on retrouve moins chez les jeunes, certaines hydrocarbures aromatiques polycycliques aussi. Et les personnes plus âgées sont moins exposées à des expositions multiples. C'est moins fréquent que chez les plus jeunes. Ça, c'est l'autre caractéristique qu'on a mis de l'avant. Maintenant, vous vous souvenez qu'on nous a demandé justement de parler spécifiquement des secteurs. Alors, je ne peux pas vous parler de tous les secteurs. Alors, j'en ai choisi 4. Et puis, vous pourrez aller en ce sens chercher le rapport lui-même et son annexe, si vous voulez plus de détails sur d'autres secteurs. Alors, le secteur de la construction, c'est un gros secteur, 208 000 travailleurs, presque 6 % de la population. Dans le rapport, ce qu'on a fait, en annexe, on a produit des fiches. Ça ne sera probablement pas très clair, mais je voulais simplement vous montrer le type de fiche. On produit une fiche où on voit, en gros, une description du secteur, la répartition des emplacements selon la grosseur, la taille des emplacements de travail, le profil du secteur en termes de femmes et d'hommes, donc de sexe et de tranche d'âge, et les cancérogènes auxquels ils sont exposés. Par exemple, ici, on peut voir silice qui vient en deuxième position, donc 21 % des travailleurs exposés à la silice. Et la deuxième série de tableaux de ces fiches annexes-là est une liste par cancérogène du nombre de travailleurs total séparés par le sexe. Et puis, on voit les professions ou les groupes professionnels les plus exposés, soit en termes de proportion ou en termes de nombre de travailleurs. on va revenir, là, vous voyez, par exemple, la silice ici. Alors, vous voyez que la silice, c'est les bricteurs maçons qui sont exposés en plus grande proportion. Par contre, en plus grand nombre, bien, c'est les aides de soutien des métiers, les manœuvres en construction. Donc, pour chaque secteur, ce qu'on a, c'est ce type de renseignement-là. Alors, je vais revoir rapidement pour les quatre secteurs un peu quelles sont les caractéristiques. Donc, dans la construction, il y a 92 % des établissements qui sont des petits emplacements, de moins de 20 employés. La moyenne pour le Québec, c'est 86 %. Donc, c'est assez fort, justement, en construction. Les hommes, 87 % de la main-d'œuvre, alors que pour l'ensemble du Québec ou de tous les secteurs, c'est 50 %, donc un peu plus que la moitié. La répartition d'âge est semblable à celle de l'ensemble du Québec, avec à peu près un peu plus que le tiers des travailleurs de moins de 35 ans dans la construction. Des exemples de cancérogènes avec plus de 20 000 travailleurs exposés, bien, rayonnement solaire, on sait que les travailleurs de la construction, la majorité, travaillent un peu dehors au moins. Donc, vous voyez, le tiers à peu près des travailleurs de la construction versus 6 % pour l'ensemble des secteurs du Québec. Surtout les conducteurs d'équipements lourds en proportion d'exposition, mais en nombre, les aides et les manœuvres. Poussière de bois, 17 % exposés versus à peu près 2 % pour l'ensemble des secteurs d'activité. Surtout les charpentiers menuisiers en pourcentage d'exposition, mais aussi en nombre d'exposition. Amiante, 12 % à peu près exposés versus 0,7 pour l'ensemble des travailleurs du Québec. Électriciens, beaucoup. Charpentiers menuisiers, en nombre, parce qu'il y a beaucoup de charpentiers menuisiers, moins d'électriciens. Un autre secteur qui est beaucoup plus petit, première transformation des métaux. Vous voyez, plus grosses entreprises, des établissements beaucoup plus gros. 47 % seulement en bas de 20 employés, alors que c'est 86 % pour l'ensemble du Québec. Les hommes encore fortement représentés dans ces entreprises-là de première transformation des métaux. Travailleurs sont plus âgés un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des travailleurs qui ont plus de 44 ans dans ce secteur d'activité-là. Donc, il va avoir besoin de relève bientôt. Puis, les exemples de cancérogènes, bien, travail de nuit. Presque la moitié des travailleurs ont à travailler à un moment donné de nuit dans ces établissements-là de première transformation des métaux. Beaucoup d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. En termes de proportion d'exposition, c'est les pompiers d'établissement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pompiers d'établissement. Alors, en termes de nombre, bien, c'est les opérateurs de machines dans ce secteur d'activité-là qui sont plus exposés au HAP. Benzène, encore, silice aussi. Donc, vous voyez, dans chaque cas, on montre toujours la substance auxquelles ils sont exposés, les proportions et quels sont les titres d'emploi qui sont les plus exposés en nombre et en proportion pour chacun des secteurs. Fabrication de produits chimiques, petit secteur aussi. Là, vous voyez que là aussi, il y a des emplacements assez gros, parce que c'est seulement 68 % des emplacements de la fabrication de produits chimiques qui a moins de 20 employés. C'est moins pire que quand même les premières transformations des métaux. Les hommes constituent une plus faible proportion, donc beaucoup plus semblable à l'ensemble du Québec. Travailleurs d'âge moyen, c'est surtout les travailleurs d'âge moyen, c'est ça. Ils sont ni trop vieux, ni trop jeunes, donc à peu près 56 % entre 35 et 54 ans. L'ensemble du Québec, c'est un petit peu plus bas que ça. Il y a deux grands types d'exposition. C'est le travail de nuit, parce que plusieurs de ces entreprises-là fonctionnent 24 heures sur 24. Et ce que je vous montrais, la différence, justement, entre les proportions d'exposition ou les pourcentages d'exposition et le nombre, bien, ça se montre ici. Alors, il y a beaucoup d'agents de sécurité. Bien, tous les agents de sécurité, à peu près, font du travail de nuit. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'agents de sécurité dans ces établissements-là. Alors, en termes de nombre, bien, c'est les ouvriers qualifiés, bien sûr, qui sont plus exposés au travail de nuit. Ensuite de ça, la proportion de travailleurs exposés varie beaucoup, beaucoup selon le type d'industrie chimique. Alors, on a des faibles proportions quand on considère l'ensemble du secteur de fabrication des produits chimiques.
Me revoilons au micro. L'émission est maintenant terminée. Vous le savez, donc je fais du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants, donc au CTI. Et puis donc au CTI, on retrouve l'Association des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires et l'Association des travailleurs et travailleuses de l'agence de placement. Et puis donc, ce que je voulais vous dire, là, comme d'habitude, c'est que si jamais vous avez besoin de parler de votre situation au travail, voilà, vous pouvez nous contacter. Donc, que vous soyez un travailleur d'agence de placement, un travailleur étranger temporaire ou même un travailleur là, qui juge, qui vit une situation difficile au travail, vous pouvez nous contacter. Donc, le numéro de téléphone, 514-342-2111, 514-342-2111. Vous avez l'adresse courriel, donc info@commercial.com. IWC, info@iwc-cti.ca, donc info@iwc-cti.ca. Et puis, vous avez également donc le site internet du centre, donc IWC-cti.ca. Puis voilà, vous allez retrouver donc l'information sur le centre, vous pouvez nous appeler. Voilà, si vous voulez discuter de votre situation au travail. Et puis voilà, il y a des avocats présents, des travailleurs sociaux qui sont là pour vous aider. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve donc le 25 mars prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et également, vous pouvez nous envoyer un courriel en fait à news@commercialsecurity.ca. News, donc news@commercialsecurity.ca. Vous pouvez également nous contacter au 514-448-4041, extension 6788, 514-448-4041, extension 67.
CKUT Radio. Soundwaves in the air.
CKUT
Montreal, Canada.
CKUT.
Following is a previously broadcast program.
Good evening. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. I'm your host, Sarah DeA, recording from home on December 10th, 2020. On tonight's show, my guests include Lisa Rubin, Artistic and Executive Director at The Seagull, on the theater's virtual show Underneath the Lintel this weekend.
You know, in the first few minutes, he's going to say, like, this is it, this is all who can be here. You know, of course, the virtual audience, we hope to have hundreds, but in the actual room, we'll just really be the crew.
Rachel Matumbo, actress and writer, the winner of the Kevin Prize from Infinitheater's Right on Cue competition.
I was actually brushing my teeth. I will not forget because Guy's phone number popped up and I was like, in my head, I was like, I wonder what this is about. And I didn't even like make the connection.
Kathleen Stavert and Joy Ross Jones of Artista. With a meta nod under its belt, the mentorship program looks for aspiring theater artists for its 2021 session.
It can be many different things. It can be, I need to be a part of this program because I need to become an artist and I need that.